Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Les amis, quel plaisir de vous retrouver ici sur Radio Immo et Radio Territoria pour vous faire vivre cette cinquième édition du salon bas carbone, le CIPCA, ici au Grand Palais, dans un écrin absolument magnifique. Alors certes, il fait un petit peu chaud sous ce dôme de verre, mais franchement, quel plaisir que de discuter des grands enjeux autour de la décarbonation avec de nombreux invités qui nous rejoignent ici pendant 3 jours. Clément Lecuivre, bonjour.
Bonjour.
Clément, vous êtes président du directoire de CDC Habitat, l'un des plus grands opérateurs de logements en France. Encore merci d'être présent. Et à mes côtés, Sylvain Lévy-Valency, éditorialiste sur Radio Immo. Merci mon cher Sylvain d'être présent à mes côtés.
Merci Jean-Baptiste. Bonjour Clément Lecuivre.
Bonjour.
Alors c'est intéressant d'être ici parce que finalement, ce bâtiment qui était destiné et voué à la destruction, puisqu'il a été construit à l'occasion de l'exposition universelle, était magnifique face au petit palais. Et je trouve ça intéressant, mais c'est presque un pied de nez dans l'histoire, de voir qu'un élément architectural aussi beau, qui était éphémère, puisse durer. Et maintenant, on n'envisagerait pas Paris sans la Tour Eiffel, on l'envisagerait pas non plus sans le Grand Palais. Je voudrais me permettre de vous poser la première question, Clément. On le voit, l'offre de logements se contracte de plus en plus et très franchement, ça devient désespérant. C'est structurellement désespérant. On va pas revoir les chiffres. 2,7 millions de personnes qui sont en attente de logements sociaux, une pression qui s'exerce dans les zones hyper tendues, ultra tendues. Il n'est pas rare de voir une offre à la location avec 200, 300 dossiers, des parents d'élèves déprimés, désespérés. Et je vous donne un autre chiffre, un cinquième, c'est-à-dire presque 20% des étudiants ont renoncé à leurs études faute de logement. 17% des contrats à durée indéterminée ne peuvent pas être signés puisque les entreprises n'arrivent pas à avoir une offre de logement. On est dans une équation extrêmement difficile. Vous qui avez un regard économique, macro, sur l'ensemble du territoire, quelle photographie vous faites aujourd'hui? On ne va pas entrer sur la politique de genre, mais sur la situation justement de cette grave crise qui est certainement la plus grave crise que nous avons connue depuis les années 50.
Absolument. J'allais vous répondre comme ça en vous disant qu'on construit aujourd'hui en 2025, en 2026, ces deux dernières années, chaque année, le même nombre de logements qu'en 1954.
Incroyable. Incroyable.
Donc,
avec 20 millions d'habitants supplémentaires.
Absolument. Et avec une crise du logement qui était déjà terrible dans les années 50. Mmh. Donc aujourd'hui, on connaît une crise du logement qui est effectivement extrêmement sévère, qui se caractérise par quoi? Par le fait qu'on a aujourd'hui une production qui est structurellement en deçà des besoins de la population. Et ça se traduit par le fait qu'on a un segment de l'immobilier résidentiel qui est grippé à tous les niveaux. Je vais commencer par l'accession. C'est peut-être un peu contre-intuitif pour le président de CDC Habitat, qui est un bailleur social, qui met à disposition des logements intermédiaires, des logements d'intérêt général, de commencer par l'accession. Mais effectivement, l'accession à la propriété est grippée. Et donc, s'ensuit derrière un parcours résidentiel qui ne fonctionne plus correctement aujourd'hui dans notre pays. Des accédants à la propriété, surtout des primo-accédants qui sont évincés du marché de l'accession et donc qui ne peuvent pas sortir du parc locatif social évidemment. Et donc aujourd'hui, on connaît des taux de rotation au sein du logement social qui sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, on est entre 5 et 6%. C'était des chiffres qu'on n'avait jamais connus jusqu'à présent. C'est vrai aussi dans le parc privé avec toutes les conséquences que vous avez décrites, c'est-à-dire des pertes d'opportunités, de mobilité résidentielle, d'emploi, d'études pour les plus jeunes, pour les étudiants, des logements qui ne sont plus adaptés à la situation familiale, des familles qui ont besoin de s'agrandir, des familles qui décohabitent, qui ont besoin aussi d'avoir de logements alors qu'auparavant elles habitaient dans le même toit. Donc le constat, il est exactement celui que vous avez décrit, c'est-à-dire une crise qui aujourd'hui se traduit par un déséquilibre croissant, un secteur de l'immobilier résidentiel en crise sur l'ensemble des segments et surtout une urgence qui est de produire plus, de produire davantage de logements neufs, évidemment des logements abordables, donc des logements sociaux et des logements intermédiaires. CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts, opérateur de la Banque des territoires, est là pour ça, c'est sa raison d'être, mais l'urgence, c'est de produire davantage de logements sur tous les segments de l'immobilier.
Il y a un autre chiffre qui est important, et je voudrais vraiment vous sensibiliser, mais vous le connaissez déjà, c'est le classement INSEE. L'INSEE estimait en 2022 que le reste à charge, la charge contrainte du logement, était environ de 18,1%. En 2025, nous avons atteint presque 27%, un peu plus de 26%. Ce que dit l'INSEE, c'est que non seulement il y a un problème d'accession à la propriété ou d'accession ne serait-ce qu'au marché locatif privé et social, bien évidemment. Mais ils vont plus loin dans une analyse. Ils disent « Le logement, je cite, est devenu un produit de luxe et il devient structurellement inaccessible, même à la location. » Et une étude récente a démontré, donc, par des associations d'étudiants, qu'il y a toute une classe de la population qui est issue des quartiers moyens, des classes moyennes, ou des classes de la classe ouvrière, qui représentent maintenant plus que 2% dans les formations de premier cycle d'enseignement supérieur à l'université. On est en République. On est en 2026. Ça doit vous sidérer, ces chiffres.
Absolument. Ce que vous décrivez sont les conséquences de la crise du logement. Ce sont ce que j'appelle des pertes d'opportunités, voilà, des pertes de chance. Donc il y a des étudiants aujourd'hui qui perdent la chance de pouvoir accéder à un parcours d'enseignement supérieur. Il y a des ménages qui perdent la chance d'aller chercher un emploi plus proche. Il y a des ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, les travailleurs clés, les fameux key workers en mauvais français, qui travaillent, qui habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail, parce que la conséquence aussi, c'est que les temps de trajet rallongent. Alors, voilà, face à cette situation, un opérateur comme CDC Habitat, donc filiale d'intérêt général de la Caisse des dépôts...
Et là, vous devenez essentiel dans le paysage. Hein.
Absolument, on le fait de manière humble et modeste, mais on pense avoir un rôle contracyclique très important et même fondamental. Moi, je vais vous donner un autre chiffre que vous ne connaissez peut-être pas. C'est que l'année dernière, en 2025, le groupe CDC Habitat et ses filiales ont représenté 8% de la production de logements en France. Alors certes, dans un contexte où la production, comme vous l'avez indiqué, était extrêmement faible, mais ça signifie que nous avons, en tant que filiale de la Caisse des dépôts, joué un rôle contracyclique majeur. On souhaite le faire encore à l'avenir, mais les chiffres des deux dernières années sont là pour le démontrer.
Vous l'aviez fait également en rachetant en bloc des immeubles aux promoteurs dans une période où on était dans le creux du creux de la vague.
Alors, on l'a fait...
Vous avez sauvé, on peut le dire, mais vous et d'ailleurs vos collègues d'Action Logement également, vous avez sauvé le marché des promoteurs aussi, en quelque sorte.
On l'a fait sous forme... Donc, le soutien à la construction neuve, l'objectif, c'était le soutien à la construction neuve. On l'a fait effectivement en rachetant des programmes, la partie bloc de certains programmes proposé par l'ensemble des promoteurs, donc des programmes neufs. L'essentiel de notre action, c'était de permettre à des programmes qui étaient déjà identifiés de se lancer. Puisque la composante d'accession était évidemment pénalisée. C'était d'apporter d'une certaine manière une sécurité en termes d'investisseur final pour la partie bloc qui permettait justement de sortir aussi la partie accession. Et ce faisant, de sortir davantage de logements collectifs en logement intermédiaire et en logement social. C'était le sens des plans de soutien qu'on a lancés en 2023 et qui, en réalité, qu'on a prolongé en 2024 et en 2025. Donc, c'était ça l'objectif. Évidemment, nous, notre intention, c'est de rester un acteur, évidemment, très précieux, très présent sur le segment de l'immobilier résidentiel, en logement intermédiaire et en logement social. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça correspond véritablement aux besoins aujourd'hui qui s'expriment de la part des ménages. Logement social, c'est pas la peine d'approfondir de manière très, très longue. Logement intermédiaire, pourquoi ? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est une réponse pertinente pour les classes moyennes, particulièrement en zone tendue. Je parlais des travailleurs essentiels il y a un instant, parce que ça permet d'offrir des solutions d'habitat abordables dans des secteurs où l'immobilier, le loyer libre dans le secteur libre, correspond à des taux d'effort qui aujourd'hui ne sont plus supportables par les ménages et en particulier les classes moyennes.
Clément, vous faites évidemment du neuf, mais vous faites aussi de la réhabilitation. En 2025, vous avez engagé 10 600 logements en réhabilitation pour environ 750 millions d'euros. Ça, ce sont les chiffres. C'est encore suffisant, j'ai envie de vous poser, au regard de la vitesse à laquelle il faudrait transformer justement le parc résidentiel. Est-ce qu'on peut encore accélérer, aller plus vite ?
Je précise que vous êtes aussi l'un des acteurs les plus vertueux dans la réflexion de la rénovation énergétique. Oui. Vous étiez même, avant même que la loi s'impose, et que la loi s'impose, vous aviez déjà opéré une vaste transformation de vos bâtiments.
Petite remise en perspective. CDC Habitat poursuit un objectif. Deuxième objectif stratégique après la production de logements neufs, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Voilà, c'est très clair, on a un objectif en matière de performance environnementale. Ça, c'est la stratégie, c'est parfaitement aligné avec la stratégie nationale bas carbone et c'est directement inspiré de la stratégie de notre actionnaire, la Caisse des dépôts, qui nous demande, qui demande à chacune de ses filiales et plus particulièrement dans le domaine de l'immobilier, d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça, ça passe par quoi ? C'était l'occasion de la table ronde à laquelle j'ai eu l'occasion de participer aujourd'hui sur le CIPCA. C'était, ça passe par une construction neuve exigeante. Ça passe aussi et d'abord et avant tout pour un bailleur comme nous sur la rénovation, la transformation de notre patrimoine existant. Et donc ça, c'est l'enjeu majeur en termes de travaux de réhabilitation sur notre patrimoine. C'est d'aligner l'ensemble de nos stratégies, de nos actions, pardon, avec la stratégie que je vous ai indiquée, c'est-à-dire de réduire considérablement les consommations d'énergie. Ça, c'est l'objectif d'atténuation. C'est un objectif de décarbonation, c'est-à-dire réduire de 90% à l'horizon 2050 nos émissions carbone. Et c'est aussi avoir un volet extrêmement ambitieux en matière d'adaptation au changement climatique, parce que l'ensemble de ces logements, nous les réhabilitons pour qu'ils soient durablement habitables. Ça veut dire qu'en termes d'adaptation aux aléas climatiques, évidemment le confort d'été, c'est le moment où chacun, je pense, a pris conscience que ces sujets sont fondamentaux. Ça veut dire aussi en termes d'adaptation aux aléas climatiques comme les tempêtes, les inondations. Ça veut dire adapter notre patrimoine, le réhabiliter pour que ces aléas climatiques puissent nous permettre d'avoir un patrimoine résilient.
La rénovation énergétique, elle coûte cher. Comment est-ce qu'on peut éviter de faire en sorte que la décarbonation finalement se traduise au bout du compte par des loyers ou des charges de plus en plus élevées pour les habitants ?
C'est le sujet central, hein. C'est celui de la soutenance du modèle. Quoi.
Absolument. Alors, dans le secteur de l'immobilier d'intérêt général, plus particulièrement du logement social, les coûts sont d'abord pris en charge par le bailleur et sont répercutés de manière extrêmement marginale. Et en tout cas, la répercussion sur les loyers est très encadrée par la réglementation. Et donc, l'objectif pour un bailleur, c'est à la fois de concilier cet impératif en matière de climat, la soutenabilité, évidemment, en termes de volume d'investissement, et puis surtout de préserver le pouvoir d'achat des locataires et le reste à charge des locataires. Ça, c'est fait parce que les loyers, en fond, l'impact sur les loyers reste extrêmement marginal et quasiment nul en pratique. Et puis, les économies d'énergie, c'est aussi une économie sur la quittance, c'est-à-dire qu'on parle de loyer. Mais ce qui est important, et dans une période où l'énergie sera de plus en plus chère pour nos locataires et pour le bailleur, c'est de faire en sorte que la facture énergétique pour le locataire diminue avec les travaux d'économie d'énergie. Et ça, aujourd'hui, on y arrive. Certes, vous avez raison, c'est un effort financier très important. C'est plusieurs centaines de millions d'euros à l'échelle, chaque année à l'échelle du groupe CDC Habitat. Mais c'est nécessaire pour améliorer, pour rendre compatible notre activité avec les objectifs climat de la France et du groupe CDC Habitat. Et puis, c'est indispensable pour préserver aussi le caractère social,
mais
le caractère abordable.
Vous en avez les moyens, puisque vous avez cette configuration capitalistique qui vous permet d'avoir des amortissements très longs. Sur plusieurs, j'allais dire dizaines d'années, quasi. Et vous êtes l'un des acteurs qui a la capacité à pouvoir le faire. Et donc, quelque part, c'est aussi quelque chose d'iconique. Parce que vous entraînez avec vous toute une méthodologie. Je sais que vous aviez lancé un diagnostic de performance résilience auprès des bâtiments qui n'avait jamais été fait. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, mais ça pourrait même être l'objet d'un nouveau label, d'une nouvelle référence. Et pourquoi, comment vous expliquez le fait que vous ayez eu très tôt cette idée de la conversion énergétique, des raccordements au réseau de chaleur urbain également, avec une volonté réelle de vous affranchir tant que vous le pouvez, en fonction de vos bâtiments, des énergies fossiles? Donc on voit bien qu'il y a aussi une action citoyenne dans la façon dont vous fabriquez les morceaux de ville. Est-ce qu'il y a, dans la configuration de CDC Habitat, le seul type d'acteur configuré pour pouvoir le faire?
On peut se poser la question. Je ne sais pas si on est les seuls. En revanche, c'est consubstantiel à notre raison d'être. Nous sommes un acteur d'intérêt général, filiale de la Caisse des dépôts. Et donc, c'est inscrit aujourd'hui dans notre raison d'être. et les objectifs climatiques sont inscrits dans notre stratégie comme un pilier fondamental. Je reviens d'un mot sur les diagnostics performance résilience pour nos auditeurs. C'est une chose très simple. C'est un acronyme qui est pas, enfin c'est un nom qui est pas forcément qui pourrait être amélioré en termes de marketing.
Oui, si on voulait faire un label. Il fait pas rêver avec son acronyme.
Absolument, oui, absolument. Il fait pas rêver, mais en revanche, c'est quelque chose de très très simple.
Oui.
En termes de conceptuel, c'est de soumettre à l'analyse la criticité de nos actifs en termes d'aléas climatiques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a fait la cartographie de notre patrimoine, on a regardé où le patrimoine est soumis de la manière la plus critique aux aléas climatiques. Ça veut dire les inondations, les tempêtes, la chaleur.
La chaleur extrême. Y compris les territoires ultramarins ?
Absolument. Absolument. On l'a expérimenté aussi dans les Outre-mer, vous avez raison. On a construit une méthodologie, c'est ça le fameux DPR, diagnostic performance résilience. On a construit une méthodologie qu'on applique maintenant, alors de manière progressive, mais qu'on va appliquer de manière systématique au patrimoine qui est soumis aux aléas climatiques les plus importants. Pourquoi faire ? C'est la connaissance de patrimoine, c'est effectivement important. Derrière, pour que dans le bouquet de travaux qu'on mettra en œuvre dans le cadre de nos réhabilitations, on intègre systématiquement, lorsque c'est nécessaire, des travaux d'adaptation. Et c'est ça l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans notre politique de réhabilitation, on intégrera maintenant systématiquement, lorsque c'est pertinent, lorsque c'est nécessaire, des travaux d'adaptation. Voilà, c'est ce qui va nous permettre, dans la durée, d'adapter notre patrimoine aussi au changement climatique pour préparer ce qu'on a connu cet été, c'est-à-dire des aléas climatiques qui vont revenir et qui vont se répéter de plus en plus majeurs et de plus en plus fréquents.
Alors, vous êtes aussi un acteur de transformation des territoires, c'est important de le préciser. Quand CDC Habitat intervient dans un quartier, votre rôle ne s'arrête pas simplement à la réhabilitation ou à la construction de logements. Vous devez, j'imagine, aussi maintenant penser plus large, penser mobilité, services, végétalisation et adaptation climatique à l'échelle d'un quartier. Tout cela, c'est une vision globale que vous devez à tout prix avoir.
Est-ce que vous êtes devenu finalement un ensemblier urbain où finalement, au lieu de construire, vous plantez de la ville et vous l'élevez dans ce cadre-là ? On a vraiment l'impression, parce que vous avez un nombre de métiers et de capacités qui est assez phénoménal. Alors, je pense que c'est lié aussi à la nature. Vous avez répondu très justement. Vous êtes reconnu d'intérêt public. Vous êtes, mais c'est assez éloquent quand on voit les besoins. Je suppose que les élus sont ravis de vous voir arriver sur des territoires pour pouvoir les aider.
On s'efforce d'être au service des territoires.
Voilà. Bien sûr.
On le fait de manière avec humilité. On essaye de le faire de manière pragmatique et surtout avec beaucoup de professionnalisme. Vous avez raison d'indiquer que lorsque on rénove un ensemble immobilier, une résidence, on le fait en intégrant l'ensemble des questions liées à son environnement.
Bien sûr.
L'environnement urbain. Ce sont les questions de résidentialisation qui sont classiques. Mais les questions de végétalisation, de lutte contre les îlots de chaleur, précisément en travaillant sur le cycle de l'eau pour travailler sur les îlots de fraîcheur, ce sont des problématiques qu'on intègre de manière systématique maintenant. Et donc, évidemment, effectivement, comme vous l'avez indiqué, on s'efforce d'être aussi des acteurs de la ville au-delà d'être des acteurs de
la ville, mais aussi vous prenez soin des habitants, parce qu'on le sait maintenant, on sait que le bâtiment, d'ailleurs j'annonce, je fais un peu de teasing sur la conférence de la Maison Saine qui aura lieu jeudi de 9h30 à 10h15 avec deux éminents épidémiologistes qui ont documenté des travaux sur l'habitat. La question de l'usage, de la santé, du bien-être devient de plus en plus prégnante. Voilà. Voilà, ça fait un peu plus de 35 ans que je suis dans ce métier et c'est vrai que j'en entends, je sens le mouvement depuis que très peu de temps finalement, cette préoccupation. La question du bien-être, à l'instar de la permacrise que l'on vit, puisque à la fois c'est un hiver très rigoureux, très dur.
Les épisodes qui sont nouveaux.
À la fois, on a maintenant des épisodes caniculaires qui sont mortifères. Il y a eu des records, encore une fois, malheureusement, et c'est dramatique,
nombre de
mortalité cet été. Qui a permis aussi d'avoir une réflexion sur, par exemple, revoir les couleurs des peintures, revoir peut-être les toits en ardoise ou en zinc, de revoir peut-être les configurations, parce que je peux vous dire que quand on vit sous les toits de Paris, en plein été, sous la canicule, c'est vraiment une horreur absolue. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, Clément Lecuivre, une réflexion sur le bon choix des matériaux, les innovations, vous savez, ces fameuses peintures qui ont des cellules ou des molécules qui réfléchissent la lumière. Par exemple, le fait d'avoir systématiquement des occultants, les fameuses vénitiennes qu'on connaissait sur des vieux avec le bon sens qui caractérisait les constructions, etc. Est-ce que tout ça a amené également un acteur comme vous à réfléchir sur réinventer également en fonction du bien-être dans l'habitat, le mode constructif dans sa globalité, comme certains de vos confrères le font.
Absolument, absolument. Nous avons lancé, peut-être que vous l'avez à l'esprit, un collectif avec Séquence, une filiale d'Action Logement qui s'appelle Habiter la ville à 2050,
absolument.
À 50 degrés, pardon.
Absolument.
Et donc,
un super travail de fond.
Et ça, c'est par exemple un des travaux qui ont été conduits par ce collectif avec d'autres acteurs du secteur, consiste à se fixer une doctrine sur la climatisation, par exemple, en imaginant tout ce qu'il fallait faire avant de recourir à la climatisation. Et donc, en imaginant tous les procédés constructifs qu'il fallait privilégier précisément avant d'arriver à la solution de la climatisation que lorsque c'était absolument, absolument nécessaire. Et il y a des moments où c'est nécessaire. C'est un travail qui est extrêmement intéressant. Donc, vous avez raison, on essaye de le faire au maximum, améliorer les procédés constructifs, développer au maximum les innovations qui nous permettent, je l'ai déjà dit, mais travailler sur le cycle de l'eau. Extrêmement important à la fois pour économiser les ressources en eau. Cet été a montré que ça devenait un sujet critique pour contribuer à la transformation de pieds de résidence pour en faire des îlots de fraîcheur qui permettent de lutter
Comment
contre...
Comment vous avez géré la canicule de cet été ?
Pour améliorer...
Avec vos usagers vos...
Bah, en fait, on a essayé d'aller ce qu'on appelle développer au maximum l'allée vert, c'est-à-dire se préoccuper des conditions dans lesquelles nos résidents... était passé cet épisode de ces épisodes de canicule, évidemment être le maximum en proximité. Alors j'ai pas le temps de développer l'ensemble des actions qu'on a conduites. Ça sont les actions, je dirais, de court terme, qui sont des actions de proximité vis-à-vis de nos locataires et nos résidents, qui sont absolument essentielles. Et puis il y a la gestion du moyen long terme, et ça c'est l'ensemble des actions dont on a commencé à discuter ensemble. Mais je serais ravi de venir en parler de manière plus approfondie une autre fois. Qui nous permettent d'adapter notre patrimoine dans le temps. Vous l'avez évoqué, mais c'est les occultants, la peinture réfléchissante, c'est les îlots de fraîcheur, c'est l'ensemble des dispositifs qui nous permettent...
Vous savez, juste les brasseurs d'air, c'est 3 degrés d'écart, 4 degrés d'écart. Et d'ailleurs, dans les territoires ultramarins, vous avez fait des choses remarquables, où vous avez utilisé l'air comme conducteur, finalement, pour laisser l'air circuler entre les pièces, pour éviter, justement, en ultime recours... J'ai bien aimé votre façon de le dire, le recours à la clim, par exemple.
Et vous savez, chez CDC Habitat, l'outre-mer est une source d'inspiration quasi inépuisable.
Un grand merci à vous d'avoir gentiment répondu à notre invitation.
Absolument. C'est moi qui vous remercie.
Merci également, Sylvain.
Merci.
On va se retrouver dans quelques instants pour une ultime rendez-vous.
On arrive ultime rendez-vous.
Un ultime rendez-vous.
Et on sera là demain, d'ailleurs, dès
9h30,
bien sûr.
Voilà, dès 9h30. Merci de votre fidélité. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.